18-20. Fabienne Synthèse sur France Inter.
Le monde à l'envers de Jean-Marc Four. Jean-Marc, en voilà un autre, tiens, qui est en prison, sacrément en prison. Les mésaventures de Carlos Ghosn qui se poursuivent cette fois au Japon. La justice japonaise aujourd'hui a confirmé le maintien en détention de l'ancien patron. Le conseil d'administration de Nissan l'a démis de ses fonctions de président. Et ce qui vous intéresse ce soir, c'est la façon dont la procédure contre Carlos Ghosn s'est déclenchée au Japon. Et votre question, c'est: est-ce que ça aurait pu avoir lieu en Europe? Tout ça, il y a un vrai doute et c'est votre monde à l'envers.
Ce soir, petit cours de japonais dans le texte, Fabienne. Le mot-clé, c'est Yukashoken Okoshuko. Vous pouvez répéter après moi?
Yukashoken Okoshuko.
Voilà, c'est le nom au Japon du formulaire annuel transmis par une entreprise à ses investisseurs et aux autorités financières du pays.
Karine Michimura qui travaille souvent pour nous et qui doit apprécier.
Allez-y. Exactement. Alors, c'est normalement un état des lieux transparent sur toutes les informations du groupe, y compris les rémunérations des dirigeants. Et c'est d'abord ce document que Carlos Ghosn est soupçonné d'avoir falsifié pour dissimuler une partie importante de ses revenus. Et là où ça devient intéressant, en effet, c'est de regarder comment la justice japonaise a eu vent de cette affaire. Qui lui a mis la puce à l'oreille? Réponse: un ou plusieurs lanceurs d'alerte qui travaillaient au sein de la direction de Nissan. Et ça peut surprendre parce qu'au Japon, on le sait, traditionnellement, il y a un très fort esprit de corps dans les entreprises. Sauf que, depuis le 1er juin dernier, une nouvelle loi protège ces lanceurs d'alerte. Ils peuvent obtenir une sorte de remise de peine en plaidant coupable. C'est un peu comme dans le droit anglo-saxon. Et la loi japonaise va même plus loin. C'est-à-dire que l'entreprise elle-même, en tant que personne morale, échappera à des sanctions si ses hauts cadres viennent témoigner de mauvaises pratiques en son sein. Et au départ, ce qui est marrant, c'est que cette loi visait à mieux combattre les gangs. Et vous savez, les célèbres yakuza où évidemment règne l'omerta, la loi du silence. En fin de compte, elle est surtout en train de bousculer le monde économique. Cette affaire Ghosn au Japon semble donc une conséquence directe de la protection des lanceurs d'alerte dans l'entreprise.
Et donc, Jean-Marc, est-ce que ça serait possible de lancer l'alerte de la même manière dans une entreprise en France?
Eh bien, c'est pas évident du tout. Par exemple, si ça se passait, mettons, chez Renault, pas chez Nissan. C'est juste une hypothèse, évidemment. C'est vrai, depuis un an, il y a la loi dite Sapin 2 qui protège les lanceurs d'alerte en France. Mais la protection reste insuffisante, ils n'ont pas vraiment de statut juridique et surtout en juin dernier, extraordinaire coïncidence des dates. Au moment où le Parlement japonais instaurait cette loi, ce droit du lanceur d'alerte, le Parlement français, lui, votait la loi sur le secret des affaires. Et ce texte complique considérablement les enquêtes journalistiques ou judiciaires sur les pratiques douteuses en entreprise. Alors les médias restent autorisés à chercher au nom de l'intérêt général, mais cette loi a un puissant effet dissuasif sur les éventuels lanceurs d'alerte, ils n'osent plus rien dire, et elle n'autorise que la publication d'enquêtes pour des faits pénalement répréhensibles. Vous allez me dire, normal. Oui, mais quid, par exemple, de l'évasion fiscale? Parce que souvent, elle n'est pas pénalement répréhensible. Pour autant, on peut la trouver moralement condamnable et considérer qu'elle doit être portée à la connaissance du public.
Mais c'est vrai aussi dans le reste de l'Europe ou pas?
Eh ben, globalement, oui, parce que cette nouvelle loi française n'est ni plus ni moins que l'application d'une directive européenne de 2016. Là encore, nous avons dans l'actualité européenne un exemple extraordinairement révélateur. C'est le scandale de la Danske Bank, la première banque danoise. Elle est soupçonnée d'avoir, écoutez-moi bien, via une filiale en Estonie, blanchi 200 milliards d'euros d'argent sale. C'est une somme gigantesque, potentiellement le plus grand scandale de ce genre dans l'histoire de l'Europe. Pendant 8 ans, un homme, chef des traders au sein de la banque, qui s'appelle Howard Wilkinson, a essayé d'alerter en interne sans succès. Aujourd'hui, il se dessine à témoigner publiquement. Il s'est exprimé lundi devant le Parlement danois, hier devant le Parlement européen. La Danske Bank a partiellement reconnu les faits. Et malgré tout, ce lanceur d'alerte est passible de poursuites pénales. Par exemple, il ne peut pas citer nommément les titulaires des comptes suspects ou les identités des grandes banques occidentales. On parle de banques américaines et allemandes, soupçonnées d'avoir été impliquées elles aussi dans le processus. En témoignant, il prend donc un risque. Il n'est pas vraiment protégé. Il serait japonais, le risque serait sans doute moins élevé. Un petit mot encore. Il y a quelques jours, deux chercheurs américains de la célèbre université Harvard concluaient un rapport avec ces mots. Les lanceurs d'alerte sont paradoxalement le signe des entreprises en bonne santé. Une entreprise qui utilise activement un système de détection interne résout ses problèmes plus vite. Ça se médite, hein, non ?